écoutez France Culture.
La suite dans les idées, encore une fois, on va procéder en deux émissions, non pas deux émissions consécutives, mais un couple d'émissions pour penser, tenter de penser certains aspects des spécificités du capitalisme français. Et il y en a de très nombreuses qui font qu'on ne pratique pas le capitalisme tout à fait de la même manière dans ce pays que dans bien d'autres démocraties occidentales. Donc d'ici trois semaines, on consacrera une émission à un livre, un portrait, enquête qui va paraître d'ici une dizaine de jours, signé d'un journaliste économique, ancien directeur adjoint de la rédaction du Monde, Laurent Mauduit. Un portrait consacré à Alain Minc, acteur central du capitalisme français, portrait qui, au-delà de la figure de la personne croquée dans ce gros livre, est aussi une manière de plonger à l'intérieur du système capitaliste français dans cette opacité assez différente des règles en vigueur, notamment dans le monde anglo-saxon. Ce sera l'occasion de s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, premier volet en quelque sorte de ces regards portés sur le capitalisme français, un regard différent, un regard d'économiste, de chercheur, profite de la présence à Paris de Thomas Philippon, qui enseigne l'économie à New York University, NYU, après avoir soutenu sa thèse aux États-Unis au MIT à Boston. Thomas Philippon est donc économiste et il fait paraître dans la collection La République des idées l'un de ses petits livres qui souvent prennent un malin plaisir à brouiller les frontières disciplinaires entre l'économie et la sociologie. C'est pour ça qu'à côté de lui, j'ai invité des sociologues à venir dialoguer, puisque Thomas Philippon se pose, mais d'une manière très particulière, la question de la crise du travail, de manière particulière parce qu'elle remet en cause les modes d'approche ou les questionnements, les problématiques les plus souvent entendues, notamment du côté des économistes, mais elle le fait en étant fidèle aux outils de l'économiste et non pas à partir d'un travail d'enquête, de recherche de type sociologique. Alors, donc pour dialoguer avec Thomas Philippon ce soir, Vincent de Gaulle-Jacques, qui est lui sociologue, qui dirige le laboratoire de changement social à l'université Paris 7, qui a écrit de nombreux livres sur la question du management, du pouvoir managérial. Le dernier apparu dans la collection de Jacques Généreux, L'économie humaine, et le titre est La société malade de la gestion. Puis je crois que vient de reparaître aussi un livre qu'il avait écrit il y a déjà quelques années avec Nicole Aubert, Le coût de l'excellence. Ces deux livres sont publiés aux éditions du Seuil. Nous rejoindra normalement autour de la table, j'espère, le rédacteur en chef d'Alternatives économiques, Thierry Frémaux. Et puis au téléphone, nous sommes avec un autre sociologue, François Dupuis, qui a publié dans cette même République des idées, voici quelques bons mois, voire un peu plus d'un an, un livre remarqué à l'époque, La fatigue des élites, qui lui aussi posait la question de la crise du management en France. Alors je disais, Thomas Philippon, ce livre s'appelle « Le capitalisme d'héritier » pour bien insister sur un trait assez spécifique au capitalisme français. Mais au fond, vous intéressez à cette caractéristique en posant une question relative au travail et en faisant le choix et le parti pris aussi de dire que s'il y a bien une crise du travail en France, elle n'est pas forcément là où on croit. Et vous balayez assez vite dans l'introduction un certain nombre de choses convenues, entendues sur le fait, par exemple, que alors on les entend beaucoup en ce moment dans la campagne quand on reparle évidemment des 35 heures, sur le fait que finalement il y aurait une crise de la valeur travail, une crise morale en particulier, qu'on n'aimerait plus travailler en France, ou que, autre argument très très entendu, que les rigidités du droit du travail en particulier seraient responsables et à l'origine de la crise du travail et donc du chômage, ce que vous minimisez considérablement, et vous nous expliquez s'il y a bien une crise, au fond elle est à rechercher dans la nature des relations sociales en France évidemment du côté des syndicats, c'est pas principalement ce qui vous occupe dans le livre, même si c'est une vraie question, mais aussi, et c'est, on l'entend un petit peu moins souvent, il faut regarder du côté des patrons, du patronat et des managers pour comprendre pourquoi les relations sont aussi tendues sur le marché du travail en France.
Oui, absolument. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, donc mon idée c'était d'explorer cette question de la crise du travail, mais sans a priori, et donc de considérer les hypothèses une à une, les hypothèses que je trouvais raisonnables. Donc une hypothèse qu'on peut trouver raisonnable, c'est peut-être que les Français ne veulent plus travailler. Mais il se trouve que quand on regarde les enquêtes disponibles, c'est-à-dire des enquêtes au niveau des enquêtes qualitatives, au niveau des individus, des travailleurs ou même des managers, on voit qu'en France, en fait, le désir de travailler, l'importance du travail dans la vie des gens, même le travail comme valeur qu'on enseigne aux enfants, est encore très élevé, et même d'ailleurs plutôt plus élevé que dans la plupart des pays, des autres pays européens, à des niveaux comparables, figurez-vous, à ceux des États-Unis, par exemple. Donc l'idée selon laquelle les gens ne veulent plus travailler ne semble pas être dans les données. Ensuite, une deuxième explication qui est souvent avancée est que tout est dû aux rigidités formelles, c'est-à-dire les rigidités qui sont dues aux lois et aux régulations, aux rigidités formelles du marché du travail. Donc ça inclut les coûts de licenciement, le salaire minimum, peut-être une indemnisation du chômage excessive, etc. Et donc je ne nie pas que ça ait un impact, ça a un impact, mais simplement ce qu'on voit dans les données quand on compare les différents pays, c'est que ça ne peut pas expliquer peut-être plus qu'un tiers des variations ou bien d'emploi ou bien de chômage entre les pays. Simplement parce que vous trouvez toute forme de régulation dans plein de pays différents et vous trouvez des pays où les régulations sont fortes et il y a quand même plein d'emplois et puis des pays où elles sont fortes et il y a beaucoup de chômage. Et puis, donc finalement, ça peut pas être la clé absolument centrale du problème. Ce qui me conclut à essayer de, ce qui me pousse à essayer de regarder ailleurs, et ce que je trouve quand j'essaie de dresser un portrait de la France au niveau économique, c'est que l'endroit où il y a vraiment une exception française, si on veut parler d'exception française, c'est dans le manque de confiance entre les managers et les employés, ou entre les patrons et les syndicats, un manque de confiance dans les relations dans le travail au sein des entreprises. Et ce manque de confiance, il est perçu de manière assez similaire, en fait, par les managers et par les employés. C'est-à-dire, dans les deux cas, ils nous disent qu'ils ont relativement peu confiance dans leur partenaire et que les relations du travail sont relativement destructives en France plutôt que d'être constructives.
François Dupuis, vous nous entendez ?
Oui, très bien. Très bien.
Vous avez lu le livre de Thomas Philippon. Et à certains égards, moi j'ai trouvé, par rapport au souvenir que j'avais de votre livre, La fatigue des élites, qu'un certain nombre de choses se recoupaient.
Oui. D'abord, je voudrais dire vous avez souligné tout à l'heure le fait que les économistes peuvent venir sur le terrain des sociologues. Je ne sais pas si l'inverse est vrai, mais je trouve que c'est réjouissant, parce que le livre de Thomas Philippon prend un autre angle, et surtout ce qui m'a passionné, c'est qu'il s'est quand même construit lui-même souvent ses propres instruments de mesure. Et donc j'ai retrouvé dans ce qu'il dit beaucoup de choses que moi j'avais essayé de dire sur un autre angle. Et par rapport à ce qu'il vient de dire, je voudrais simplement faire une remarque. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas Philippon quand il dit que le désir de travailler en France est le même qu'il est ailleurs. Ce qui a par contre beaucoup changé, et qui d'ailleurs peut conforter sa thèse, hein, c'est ce qu'on attend du travail. C'est-à-dire, et ce que donc, compte tenu que l'on entend beaucoup moins que l'on attendait avant, ce que l'on investit dans le travail. Et je crois que s'il y a une différence forte entre aujourd'hui et la période des Trente Glorieuses sur laquelle Thomas Philippon insiste beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, le travail n'est beaucoup moins qu'il était un lieu de réalisation de soi. Et au-delà même de l'aspect des relations professionnelles auxquelles il fait longuement allusion et de leur aspect conflictuel, la dureté croissante du travail lui-même fait que on veut toujours travailler parce que d'abord c'est une nécessité très forte, mais par contre on attend beaucoup moins de choses du travail qu'on en attendait précédemment. Et je voudrais ajouter, excusez-moi sans être trop long, je suis tout à fait d'accord avec Thomas Philippon sur la critique de cette espèce d'expression un peu vague de la valeur travail, car après tout on pourrait dire que parler de la détérioration de la valeur travail, c'est au mieux une naïveté, au pire une supercherie. Ce qui est détérioré, c'est pas la valeur travail, c'est le travail lui-même, d'ailleurs, pour une grande partie. Et forcément, la valeur qui est liée, eh bien, c'est détérioré aussi.
Vincent de Gaulé-Jacq, pour poursuivre ce premier tour de table.
Ben, je dirais deux choses. Moi, ce qui me frappe beaucoup comme sociologue, non pas travaillant comme sociologue clinicien, donc non pas travaillant en partie des statistiques, mais de ce que j'écoute sur le terrain des gens qui sont au travail, ou des gens qui n'y sont pas, mais qui aimeraient y être, c'est même, il y a quelque chose de provocant de penser, de proposer aujourd'hui, et de laisser penser que les gens en France ne travailleraient pas assez, parce que ce qui me frappe, c'est l'espèce de tension formidable entre ceux qui crèvent d'avoir trop de travail et ceux qui crèvent de ne pas pouvoir travailler. Alors, derrière ça, bon, donc ceux qui sont sur la pression, qui vivent ça hein, comme une espèce d'exigence, d'excellence, du toujours plus, permanente, etc., et qui sont sur les dents, et puis d'autres, ou les mêmes à d'autres moments de leur carrière, qui se retrouvent soit placardisés, soit licenciés, soit dans une précarité, à la recherche de pouvoir travailler. Et cette tension-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que des esprits rationnels bien intentionnés ont pensé que peut-être il suffisait de partager le travail, et l'idée du 35 heures était une formidable idée. Sauf que le travail, c'est pas quelque chose qui se partage. C'est qu'il y a une incompréhension quand on raisonne comme ça. C'est pas un fromage qu'on se partage, sauf pour du travail d'exécution très, qu'on peut effectivement normaliser, mais qui représente une très faible partie du travail réel. Le travail réel, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se partage. La deuxième chose qui me paraît évidente, c'est la question de l'idéologie des ressources humaines. La plupart des DRH, quand ils parlent du travail, ils parlent en termes de gestion financière, que les effectifs, c'est un coût. Et ça me paraît un des méfaits de l'idéologie des ressources humaines. C'est-à-dire, il y a eu un malentendu terrible autour de ce terme de ressources humaines qui a été présenté comme un progrès en disant, c'est bien parce qu'enfin, on va s'occuper de l'humain. Mais en s'occupant de l'humain, on transformait l'humain en ressource. Et là, il y a eu un espèce de renversement qui est dans l'idéologie gestionnaire, mais qui est au cœur de la formation de la plupart de nos managers en France, des écoles de commerce, etc. C'est de considérer qu'effectivement, il faut considérer l'humain comme une ressource, donc comme une variable d'ajustement, hein, comme une variable parmi les différents facteurs de l'entreprise. L'humain est un facteur parmi d'autres. Sans se rendre compte qu'il y avait là un renversement idéologique, puisqu'à ce moment-là, l'humain devient un facteur au service du développement de l'entreprise, alors qu'on pourrait penser que l'entreprise devrait être au service du développement de la société, de bien-être, de la production de richesses, pour faire société. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'intériorisation de cette représentation du monde de la part d'un certain nombre de managers, de DRH, etc., et qui réduisent la question du travail à une variable d'ajustement par rapport aux exigences des actionnaires.
Thomas Philippon.
Oui. D'un autre côté, il faut quand même bien voir qu'il y a une tension inhérente dans l'existence même des entreprises, qui est que l'entreprise, elle doit à la fois avoir des produits que les consommateurs veulent acheter, avoir une rentabilité suffisante pour rembourser ses dettes ou ses actions. Ça change pas grand-chose que ce soit les actionnaires ou des banques. Hein. Personnellement, c'est une distinction qui n'est pas forcément très très importante. Et puis d'un autre côté, donner un lieu de travail où les gens puissent s'épanouir. Et donc cette tension-là, il me semble qu'elle est inévitable. Alors ce qui se passe, c'est que dans un pays où les relations sont constructives, disons à l'origine pour faire court, quand on rajoute à cette tension peut-être une concurrence accrue à cause de la mondialisation, eh bien on trouve un moyen de s'y adapter. Alors que dans un pays où on part avec des relations qui sont tendues, où la confiance n'existe pas, quand en plus de ça on rajoute l'exigence de la mondialisation, eh bien tous ces mots, toutes ces tensions, toutes ces contradictions internes explosent. Et je pense que c'est exactement ce que Monsieur Dupuis voulait dire au téléphone. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit cette augmentation plus marquée en France qu'ailleurs. C'est parce qu'on partait d'une situation où on avait du mal à gérer le problème. Pour commencer.
Alors justement, avant de redonner la parole à François Dupuis, j'aimerais qu'on fasse ce détour historique qui est l'objet d'un chapitre de votre livre, Thomas Philippon, pour bien saisir que ce dont on parle, au fond, un certain nombre des débats qu'on peut avoir aujourd'hui, et d'ailleurs vous rappelez qu'ils ont eu lieu au début du siècle, ils ont eu lieu dans les années 50, enfin il y a des récurrences là-dessus qui tiennent aux spécificités fortes du capitalisme français et dans son histoire la plus ancienne, ça nous renvoie à la formation de ce capitalisme au XIXe siècle, j'imagine.
Oui, absolument. Donc, il y a un certain nombre de traits du capitalisme, de l'économie française, qui sont extrêmement persistants. Le fait d'avoir des relations de méfiance entre patrons et syndicats, le fait d'avoir des syndicats affaiblis et souvent mal organisés, c'était déjà comme ça à la fin du 19e siècle, c'était déjà le particularisme de la France, c'était déjà un pays qui, tout en étant technologiquement très avancé, vous comparez le Danemark et la France, par exemple. Alors, le Danemark, à la fin du 19e siècle, c'est un pays pratiquement entièrement agricole. C'est-à-dire que le développement industriel n'a pas encore eu lieu. La France est un pays qui est à la pointe, avec l'Angleterre et l'Allemagne, du développement technologique. Et pourtant, les syndicats danois sont déjà plus organisés que les syndicats français, ce qui est complètement incroyable.
Donc ils sont dans cette attitude contestataire, souvent, ces syndicats français.
Oui, c'est-à-dire qu'on on les a empêchés d'exister pendant près de 80 ans. Après, on leur donne un droit d'exister qui est limité. On les a pas aidés à croître, je veux dire. Donc forcément, ils se sont retrouvés très rapidement dans une situation impossible. Et ce qui les a conduits à prendre des attitudes contestataires par la suite.
Jusqu'y compris dans les années les plus récentes, d'ailleurs.
Exactement. Du côté des patrons, il y avait déjà cette méfiance vis-à-vis des ouvriers. Et ce qui fait que, encore une fois, certaines particularités du capitalisme qui ont été partagées par tous les pays, donc pour prendre un exemple, le paternalisme, qui est quand même un grand mouvement qui naît à la fin du 19e siècle, qui d'ailleurs naît en réponse à des conflits du travail dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est exactement ça qui s'est passé. Vous avez des conflits du travail, les entreprises ne savent plus les gérer, elles s'aperçoivent que la répression pure et dure, on pourrait dire bête et méchante, ne marche pas, elles se tournent vers le paternalisme. Eh bien, en France, le paternalisme a été encore plus fort qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les tensions sociales ont été plus fortes et plutôt plus mal gérées qu'ailleurs. Donc on s'est retrouvé avec une hypertrophie de toutes ces caractéristiques dès l'origine, effectivement.
François Dupuis ou Vincent Golijac,
oui, d'abord. Juste un mot. Je vais souvent au Québec. Au Québec, la plupart de mes collègues sociologues, quand ils font une recherche en entreprise, mettent en place un dispositif dans lequel on peut travailler à la fois avec la direction et avec les syndicats. Ils ont une double commandite, ce qui évidemment leur donne les moyens de travailler. J'ai essayé depuis 10 ans de faire ça en France. C'est strictement impossible.
Il faut choisir son camp.
Il faut choisir son camp. Et le chercheur est toujours sommé de choisir son camp. Et plusieurs fois, j'ai été obligé d'arrêter des contrats de recherche ou d'intervention parce que j'avais demandé au moins qu'il y ait de la restitution, que au moins avec les personnes avec qui on avait travaillé, on puisse mettre en un climat de confiance entre les différents interlocuteurs, et ça n'a jamais été possible. Et donc la régulation des 30 glorieuses, du fordisme, etc., entre les exigences du client, les exigences du travail, les exigences du capital, on a l'impression qu'en France, cette évidence qu'il faut trouver des bonnes médiations par rapport à ça est saugrenue. Et que, d'une certaine façon, tout pèse effectivement sur le travail comme étant le point faible, les syndicats étant l'ennemi. Et donc, il y a une espèce de sentiment qu'on peut, en toute impunité, on ne gère pas une entreprise comme un groupe d'humains et d'intérêts contradictoires, mais on gère ça par rapport à une représentation qu'on peut avoir d'une rationalité, alors là, qui est vraiment limitée et qui est aujourd'hui essentiellement liée au pouvoir des gestionnaires et des financiers.
François Dupuis ?
Je voulais souligner deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. La première, c'est que le livre de Thomas Philippon a un immense mérite par rapport à cette partie du débat, c'est de parler d'entente forcée et de ne pas rejeter la conflictualité, comme on le fait toujours en France, effectivement, vers les organisations syndicales. Et en particulier, toute sa démonstration, mais je pense qu'on va y revenir, sur le fait qu'on soit un capitalisme d'héritier, comme il dit, que ça soit de l'héritage familial ou que ça soit de l'héritage de réseaux ex-fonction publique. Et là-dessus, il y a un tableau dans le livre de Thomas Philippon qui est absolument extraordinaire, montre que, finalement, on est, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, dans un cercle vicieux. Mais je suppose qu'on va revenir, et c'est important de revenir, à cet aspect des héritiers. Par contre, pour revenir sur l'intervention de Vincent, de Golijac, avec laquelle je suis à peu près d'accord, si on creuse un peu, on a le sentiment qu'en France, on n'a pas réussi, ou moins réussi qu'ailleurs, à traiter le dilemme suivant. Quel est fondamentalement la fonction d'une organisation de production ? Est-ce qu'elle est endogène, c'est-à-dire qu'une organisation de production, une entreprise, est avant tout destinée à assurer le bien-être et la protection de ses membres ? J'emploie ici le mot protection au sens Robert Castel. Et si on le regarde ainsi, par exemple, la fonction publique française a poussé jusqu'à l'extrême possible l'endogénéité de l'organisation, ou est-ce qu'une organisation est exogène, c'est-à-dire elle est avant tout destinée à produire pour satisfaire des clients, et, ma foi, le bien-être des gens passe en second. Alors, en France, on n'a jamais résolu, d'un certain point de vue, ce dilemme, et ce dilemme en reste à l'affrontement de deux perspectives. Et comme pendant la période des Trente Glorieuses, c'est manifestement l'endogénéité des organisations qui l'a emporté sur l'exogénéité, tout simplement, d'ailleurs Thomas Philippon le dit, parce qu'il y avait de quoi abonder dans la machine, eh bien, la sortie sous la pression de la mondialisation de cette endogénéité pour passer à des organisations beaucoup plus exogènes est extraordinairement douloureuse et ne fait qu'accroître la conflictualité dont il parle par rapport à son livre. Il y a là une question de fond dont on n'arrive jamais à discuter en France de façon dépassionnée. Elle est complètement passionnelle.
Vincent de Goljac, un mot avant qu'on arrive sur le capitalisme d'héritier.
Oui, je pense qu'en particulier, moi, ce qui m'a frappé, ayant été prof à Dauphine pendant 17 ans, et ayant beaucoup de collaborateurs comme Nicole Aubert, par exemple, avec qui on a écrit Le Coup de l'Excellence, qui viennent des écoles de gestion, etc., c'est que je suis frappé par le fait que la plupart des managers, des futurs gestionnaires, ce que j'ai vu à Dauphine, ce que je vois dans les écoles de commerce, etc., c'est l'enseignement de la gestion. Et le fait qu'au lieu d'enseigner justement qu'une organisation, c'est un système de médiation par rapport à une pluralité d'acteurs qui ont des intérêts différents, je veux dire le b.a.-ba, hein, de la compréhension de l'entreprise comme système humain, on enseigne des outils et des techniques de gestion, hein, pour optimiser l'utilisation des ressources, etc., qui donnent à ces gens-là une conception de la gestion qui renforce cette espèce d'aveuglement par rapport au fait que l'entreprise est une communauté humaine et que le travail, c'est pas quelque chose qui peut être réduit à une rationalité mesurée à partir d'un certain nombre d'indicateurs et autres. On n'est plus dans le taylorisme, mais quand vous prenez les programmes qualité, par exemple, et la mesure aujourd'hui du travail effectif, vous voyez le décalage tout à fait extraordinaire entre les outils de gestion qui sont utilisés, qui donnent des prescriptions et des systèmes d'évaluation de l'activité, qui sont à 100 lieues de la façon dont les gens vivent la valeur de l'activité, de ce qu'ils font. Il y a une espèce de schizophrénie aujourd'hui dans le monde du travail et de l'entreprise qui est justifiée par des outils qui sont censés apporter l'excellence, censés apporter la qualité, mais qui en fait produisent un espèce de dédoublement incroyable entre l'activité prescrite et le travail réel que les gens font, entre ce sur quoi ils vont être évalués effectivement par ces outils de gestion et la valeur que eux attachent à l'activité qu'ils font. Et les managers qui devraient réduire cet écart sont devenus en fait des normalisateurs, des prescripteurs de systèmes, d'items, de critères, de production comme ça, de mesures de la productivité des gens, qui est sans plus du tout de rapport avec ce que les gens disent qu'ils font et ce qu'ils doivent faire pour, selon leur conception à eux, bien travailler.
Alors, on va déplacer le regard un petit peu vers, pour continuer à parler du travail, mais vers les structures, au fond, du capitalisme français, puisque c'est l'hypothèse de recherche qui est la vôtre, Thomas Philippon, dans ce travail, pour expliquer ce que veut dire cette expression que vous avez retenue comme titre de l'ouvrage, le capitalisme d'héritier. Vous commencez le chapitre sur le capitalisme familial par cette citation proprement extraordinaire de l'ancien patron des patrons, l'ancien président du MEDEF, Ernest-Antoine Seyer, qui, au journal Le Monde, le 30 juillet 2002, a déclaré « Il n'y a pas de capitalisme qui ne soit pas familial. L'anomalie du capitalisme, c'est le marché. » Drôle de phrase.
Drôle de phrase, oui. Je pense qu'on pourrait... Il n'y a qu'en France qu'on peut entendre une phrase pareille. Oui, alors, le capitalisme d'héritier. Donc, la façon dont je l'entends, le mot héritier s'applique pas seulement au sens héritier parent-enfant, mais aussi au sens héritage, statut, diplôme, etc.
Au sens, on pourrait dire, en élargissant, bourdieusien, de la reproduction.
Voilà, aussi. Exactement, au sens de la reproduction. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que...
Au sens où l'entend Jean-Claude Milner, hein, au vrai sens de bourdieu d'héritier.
Oui, exactement, parce qu'il faut pas... Je veux dire, le but de l'ouvrage, c'est pas de jeter la pierre aux entreprises familiales. D'ailleurs, par ailleurs, c'est pas du tout ce que je fais dans le livre. Mais il s'agit juste de regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc, La raison pour laquelle je voulais insister sur cette notion de capitalisme d'héritier, c'était un petit peu par opposition à un capitalisme où les managers seraient sélectionnés par, disons, pour promotion interne, pour faire vite, d'accord. Et donc, je pense que une donnée de base du fonctionnement des entreprises, c'est que la promotion interne, c'est quelque chose de très difficile à faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fondamentalement violent, qui consiste à choisir des individus plutôt que d'autres pour monter les rangs et puis finalement finir en étant dirigeant d'entreprise. Donc c'est pas quelque chose de facile. Et dans toutes les sociétés du monde, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc c'est pas seulement en France. Il se trouve qu'en France, on a particulièrement du mal à le faire. Et c'est pas nouveau. Ça a été analysé très très bien, par exemple, dans le phénomène bureaucratique. Donc Crozier en parle. Et lui, il voit en fait le côté bureaucratique comme une réponse à ça. Pour éviter les rapports conflictuels entre le supérieur hiérarchique et celui qui est juste en dessous, on a une bureaucratie qui formalise toutes les étapes de manière à ce que ça réduise le pouvoir de sélection des dirigeants.
Phénomène bureaucratique, c'est 1963, hein.
Exactement. Donc, alors, il se trouve que ça, c'est un petit peu diminué au cours du temps, quand même. Mais qu'on retrouve, en réponse à la même tension fondamentale qui est celle d'une promotion interne qui est difficile à faire, une autre manière de s'en sortir, c'est d'avoir un capitalisme plus familial. Parce que dans ces cas-là, en fait, dans la mesure où le manager futur, c'est le descendant du manager qui a créé l'entreprise, donc du fondateur, le problème de la promotion se pose moins. Et surtout le problème de la légitimité du futur manager. Et donc, je pense que, mon hypothèse, c'est que le capitalisme familial, c'est une réponse, d'ailleurs, assez adaptée, assez efficace, à une situation où il y a un manque de confiance et un manque de légitimité dans la dynamique propre du capitalisme.
Oui, François Dupuis.
Oui, je voudrais revenir sur deux aspects de ce qui vient d'être dit, parce que là, on entre dans le cœur du débat du livre de Thomas Philippon. Voyez, effectivement, le mot héritier est bien entendu dans les deux sens. Et il y en a un en particulier qui nous amène à une critique qui est une critique finalement très originale du système des grandes écoles françaises et pour dire les choses un peu crûment, une critique de l'État. Je voudrais renvoyer tout le monde au tableau qui se trouve page 44 du livre. Excusez-moi d'entrer un peu dans les détails, mais dans la page 44 du livre, il y a un tableau sur l'origine professionnelle des patrons des grandes entreprises. Et quand on regarde le tableau qui s'appelle 6A, on s'aperçoit que parmi les grands patrons, ceux qui ont fait carrière, je suppose d'ailleurs c'est dans la fonction publique et pas la formation publique, en France, ceux qui ont fait carrière dans la fonction publique, c'est 47%. En Allemagne, c'est 11%. Au Royaume-Uni, c'est 29%. Ceux qui ont fait carrière dans l'entreprise, c'est 21% en France, 66% en Allemagne, 51% au Royaume-Uni. Donc, on voit bien que, et Thomas Philippon explique très bien comment ce système-là conduit à un conservatisme extraordinairement fort, car ces patrons qui viennent de la fonction publique reproduisent finalement dans l'entreprise privée qu'ils dirigent les modèles que Thomas Philippon vient de décrire très justement à partir des travaux de Michel Crozier, ce qui ne peut que ravir un crozérien comme moi, n'est-ce pas? Mais ils ne font que reproduire ces modèles-là, et du coup ça amène l'entreprise, en particulier en termes de promotion interne, à des mécanismes extraordinairement conservateurs, et donc à privilégier les règles générales et impersonnelles qui évitent ce que Crozier lui-même appelait la peur du face-à-face. Et si on voulait faire une critique assez de l'impact du système français des grandes écoles sur l'économie, eh bien, on aurait ici cette critique. Sur le deuxième point, c'est-à-dire les autres héritiers, l'entreprise familiale, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. C'est-à-dire que c'est une façon, d'un certain point de vue, de légitimer le pouvoir patronal et par conséquent d'éviter la confrontation. Et d'ailleurs, vous pourriez vous faire une remarque. Vous avez observé qu'aujourd'hui en France, la presse fait beaucoup d'écho à ces sales patrons qui s'en mettent plein les poches, notamment au moment où ils sont licenciés, ils ont des parachutes, ils ont des retraites de chapeau, tout ce que vous voulez. Moi, il y a une chose, et des salaires élevés, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Les patrons qui ont été mis en cause sur ces choses-là sont toujours des patrons qui sont en fait des cadres très supérieurs devenus patrons. Jamais on ne s'est intéressé en France à la rémunération de patrons d'origine familiale. Personne ne s'intéresse à la rémunération de M. Lagardère, de M. Arnault ou même de M. Bouygues. Donc on voit bien que dès que il s'agit effectivement de cette classe de patrons qui sont des patrons finalement d'entreprises diversifiées, au capital diversifié, comme le dit Thomas Philippon, la conflictualité est extrêmement forte, la manque de confiance prend le dessus, et c'est la reproduction d'un modèle dominant français qui est le modèle administratif. Ça n'est pas effectivement le cas dans l'entreprise familiale, même si par ailleurs Thomas Philippon note effectivement à long terme tous les handicaps que peut avoir cette entreprise de nature familiale.
Alors, beaucoup de choses dans les remarques de François Dupré. On va les reprendre dans l'ordre. D'abord, ce qu'il a dit sur les grandes écoles.
Oui. Je voulais absolument citer mes sources, parce que ce tableau, il est construit à partir des travaux absolument remarquables de Michel Bauer et Bénédicte Bertin-Moureau. Hein, donc, évidemment, qui sont dûment cité dans le truc, c'est pas mes chiffres à moi, c'est leurs chiffres que j'ai représentés de manière synthétique.
Alors, si je me souviens bien.
J'ai refait un petit travail, moi, pour regardant le CAC 40 de l'année dernière, pour essayer de voir un petit peu comment ça avait évolué au cours du temps. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que les parachutages de l'État ont quand même fortement diminué, voire disparu dans la plupart des cas, à part quelques cas très célèbres, comme Forgeard ou des gens comme ça. Mais je veux dire, globalement, c'est quand même beaucoup moins courant. Et on voit un peu plus de promotion interne. Et en gros, la part des héritiers de type familial est stable au cours du temps. Donc, juste pour actualiser les chiffres.
Si je me souviens bien des travaux de Michel Bauer, moi, ce qui m'avait frappé, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, c'était il y a 5-6 ans, où il montrait très bien que la promotion interne, ça marchait jusqu'à N-2 dans les grosses organisations, dans les grandes entreprises. Mm-hmm. Par contre, quand on était à N-1 et N, les gens venaient de l'extérieur et que cette promotion interne était stoppée. Et il faisait des comparaisons très significatives par rapport à l'Allemagne, par rapport à ça. Et c'est là où on retrouve donc le système des grandes écoles. Et il montrait qu'en fait, dans les grands dirigeants, c'est à peu près, si je me souviens bien des chiffres, 70 personnes qui sont sélectionnées chaque année, qui sortent dans la... C'est pas seulement les grandes écoles, c'est la botte des grandes écoles, hein, Normal Sup, l'ENA, l'IX, etc., et qui forment une espèce d'aristocratie, de grande aristocratie, et qui sont ceux que l'on voit partout et qui tournent entre eux, qui sont dans les conseils d'administration importants, et que pour arriver... Il est très rare que des dirigeants venant du terrain, comme on dit, arrive à s'insérer dans ce milieu-là. Alors, j'ai pas vérifié, je pense que vous l'avez fait, les chiffres récents par rapport à ça, mais ça veut dire sociologiquement que il y a une espèce de fascination en France pour une espèce de caste, d'aristocratie comme ça, qui s'auto-congratule, qui s'auto-soutient. Et ce qui est évidemment tout à fait choquant, c'est quand on voit des gens qui manifestement ont échoué comme manager, mais qu'on retrouve quand même dans des situations de pouvoir et qui continuent à jouer la solidarité hein, d'un groupe et qui traversent à la fois le public et le privé et qui traversent l'histoire aussi. Et qui traversent en particulier, et c'est ça que je trouve aujourd'hui très inquiétant, c'est le lien entre le pouvoir économique, le pouvoir médiatique et le pouvoir politique par rapport à ce groupe.
Alors ça, ce sera au cœur du sujet de l'émission qu'on aura dans 3 semaines autour de ce portrait d'Alain Minc, puisque c'est précisément le sujet de cette non-différenciation, de cette dédifférenciation de la société française et de la confusion des sphères très très frappante.
On est loin d'Antesquieu, la séparation des pouvoirs.
Très très loin en France et notamment on regarde d'autres sociétés. Alors sur la question des grandes écoles, moi je voulais prolonger parce que c'est vrai que François Dupuy a insisté sur l'ENA, mais on pourrait effectivement élargir à d'autres et retrouver un autre concept pour le coup un autre titre de Pierre Bourdieu, la noblesse d'État, hein, qu'il a mis en évidence à travers des enquêtes sur ce groupe-là de gens qu'on retrouve à ces positions de pouvoir. Mais au fond, on peut se demander si... j'imagine que vous avez eu l'occasion de le voir, Thomas Philippon, vous qui avez étudié aux États-Unis, qui maintenant enseignez aux États-Unis, une grande différence entre la France et les États-Unis de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en France, on est très fiers de notre système de méritocratie républicaine qui fonctionne jusqu'à la sortie des grandes écoles, mais on a le sentiment que la méritocratie s'arrête là et qu'elle est jouée pour l'ensemble de la vie professionnelle au moment de la sortie de ces écoles et que après les diplômes fonctionnent, les rangs de sortie de classement sont des assurances vie jusqu'à la retraite au fond pour ces diplômés, alors que dans un système américain beaucoup plus compétitif à l'intérieur des entreprises, au fond les diplômes des uns des autres après 5-10 ans d'ancienneté n'ont plus beaucoup de poids au regard des preuves professionnelles et des expériences professionnelles.
Ah oui, absolument. Non, moi je suis pas anti grandes écoles, ni je pense qu'on a besoin d'élites, on a besoin de les former bien, etc. Le problème, c'est après. C'est exactement, c'est-à-dire que et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a l'équivalent des grandes écoles et qui sont très élitistes, etc. Le seul truc, c'est que un diplôme d'une grande université américaine, c'est une porte d'entrée.
Mais ça protège pas à vie.
C'est pas une porte de sortie, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on a fait ses preuves. Ça veut dire qu'on a juste montré qu'on était capable d'arriver à un certain niveau et ensuite tout reste à faire. Et il faut toujours refaire ses preuves au cours de sa vie et surtout au cours de sa vie dans l'entreprise. Effectivement, le problème en France, c'est qu'il y a eu une tendance à penser que un diplôme obtenu à l'âge de, disons, 20 ans ou 21 ans, était suffisant pour juger des capacités managériales ou manager au sens large.
30 ans plus tard.
C'est ça l'idée qui était un petit peu. Mais encore une fois, ça c'était une manière de ne pas choisir. C'est-à-dire que si on avait pu faire autrement, si on avait un système de promotion interne dans l'entreprise qui avait marché très bien, on n'aurait pas eu besoin de faire ça. Ça c'est une manière de ne pas choisir. C'est une manière de se défausser sur l'enseignement supérieur d'une certaine manière, de choix qu'on a du mal à assumer dans l'entreprise.
Donc mais au fond, c'est le même type de mécanisme que pour l'héritage familial.
Je pense que
dans l'aspect reproductif et dans l'aspect héritage au sens strict.
Je pense que ça dans les deux cas, ça répond à une même, disons, c'est un palliatif dans les deux cas. Ça répond à un même problème fondamental qui est celui de d'avoir une compétition interne qui est légitime, perçue comme légitime. C'est ça qui est ça. En gros, quand il y a la promotion interne et surtout quand on pense à son patron, il y a deux manières de penser à celui qui arrive au sommet. On peut dire que c'est le plus compétent ou c'est le plus lèche-botte. Pour caricaturer. Et donc, dans un monde où il y a une suspicion généralisée, où on pense qu'il y a des chances que ce soit le plus lèche-botte, eh ben, la promotion interne sera toujours handicapée, il y aura toujours ce doute résiduel. Ce qui fait que ça rendra, même d'ailleurs si les managers sont eux-mêmes bien intentionnés, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux managers, il y en a qui sont très bien intentionnés, mais dans un monde où la suspicion existe, ça sera très difficile pour eux, même avec les meilleures intentions du monde, de créer une promotion interne qui marche. Mais ceci dit, ce n'est pas impossible. Il y a des exemples récents, prenez Schneider Electric, un exemple très récent, le nouveau patron de Schneider Electric, c'est pure promotion interne. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, il faut espérer que ça sera plus dans le futur.
Mais, Vincent de Gaulle.
Je crains que la mise en évidence de ce système de pouvoir et de reproduction de pouvoir d'une caste comme ça ne cache aussi un autre phénomène qui est que ces dirigeants-là ne sont pas tout puissants. Et que les entreprises multinationales et autres, les patrons restent, mais les logiques de fonctionnement de ces entreprises persistent. Et que, en fait, ces grands patrons n'ont qu'un pouvoir relatif sur le système qui se met en place avec la globalisation et la nature profonde du management réticulaire, du management que l'on voit à l'œuvre dans ces entreprises, ces grosses organisations qui sont nées dans les multinationales et qu'on voit se développer quand on parle de modernisation de l'État dans les entreprises publiques, hein, qui vont vers la, qu'ils soient privées d'ailleurs ou maintenant publiques, elles fonctionnent exactement de la même façon. Et donc la focalisation sur les élites empêche de voir que c'est l'ensemble du management aujourd'hui qui est en crise. Et que s'il est en crise, c'est pas à cause des grands patrons. Il y a une forme de conformisme, de normalisation et de plainte et de contradiction et de paradoxe dans le management intermédiaire qui me paraît être intéressant à analyser pour comprendre cette espèce de contradiction dans laquelle on est en permanence, que les gens vous disent quand vous les interviewez, qui souhaiteraient que ça fonctionne pas comme ça, mais qui sont impuissants à changer le mode de fonctionnement, et ça quel que soit le niveau hiérarchique où on s'adresse. Que du top management à tout en bas, ils participent tous à produire un système, à produire des logiques managériales, des outils de gestion dont ils disent que c'est pas ça qu'il faut faire. Par exemple, je pense au programme qualité ou des choses comme ça, mais je pourrais en donner des multiples exemples, tout en se sentant complètement impuissant à le modifier. Alors, ils croient que c'est le niveau supérieur qui pourrait le modifier, comme si on était encore dans un système hiérarchique, alors que le niveau supérieur, il est exactement dans les mêmes contradictions, mais un niveau supérieur. Et qu'il y a une espèce de sentiment totalement paradoxal, que j'entends moi, qui est en particulier l'expression qu'on entend partout, c'est on a le nez sur le guidon, on sait qu'on va dans le mur et on pédale de plus en plus vite. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette espèce d'impression généralisée que les gens savent qu'il y a une crise, qu'il y a une crise du travail, qu'il y a une crise dans l'entreprise, que cette espèce de course en avant, d'exigence du toujours plus de performance, plus d'excellence, nous mène dans le mur et qu'ils sont impuissants à freiner cette logique-là qui n'est pas spécialement voulue ou imposée par l'élite dont on parlait tout à l'heure.
Avant de donner la parole à Thomas Philippon pour répondre, c'est au fond, c'est ça qui produit cette fatigue des élites, François Dupuis.
Oui, voilà, exactement. Oui, alors si vous me permettez, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais revenir sur deux points. Un premier point, je crois, sur lequel on sera tous d'accord, c'est la critique qui est faite n'est pas la critique des grandes écoles en tant que telles. C'est la critique de l'usage qui en est fait. C'est-à-dire, l'idée qu'il faut former les élites est une idée, je dirais, d'un certain point de vue évidente. Mais la question qui se pose, c'est comment les recrute-t-on, ces élites ? Donc ça pose la question de la nature des concours de recrutement. Qu'est-ce que l'on demande dans ces concours de recrutement et le fait que finalement ça suppose un mécanisme qui est un mécanisme de sélection sur des choses qui ont peut-être peu à voir avec ce qu'il faudra faire ensuite. Ensuite, l'idée, c'est celle que vous avez dit, j'y reviens pas, c'est une porte d'un certain point de vue, c'est un passeport pour la vie. Et donc une fois que l'on a ce handicap ou si on n'est pas passé par là, on ne pourra effectivement rien faire. Et ensuite, c'est cette espèce d'endogamie qu'il y a et qui tente à se réduire, vous avez tout à fait raison, entre secteur public et secteur privé. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi la haute fonction publique ne recrute-t-elle pas de la même façon à HEC, à l'ESSEC ou à l'INSEAD, de la même façon qu'elle recrute à l'ENA. C'est-à-dire que le fait que les hauts fonctionnaires puissent aller pantoufler dans le secteur privé, pourquoi dans le fond, ça ne s'accompagne pas d'un recrutement beaucoup plus diversifié de la haute fonction publique. C'est un premier point sur lequel je voulais revenir. Alors, je voudrais revenir maintenant sur l'intervention de Vincent de Goljac, parce que je crois qu'il a fondamentalement raison sur un point. C'est que la machine du management s'est complètement emballée. Et elle est d'autant plus emballée, et je reviens à l'argument de Thomas Philippon, qu'il y a une faible confiance dans les gens. Et comment elle marche, cette machine ? C'est que c'est vrai qu'il y a une pression toujours plus forte pour toujours plus. Alors, moi, je serais peut-être plus réservé. Là, je crois que, ma foi, ça tient au fait que nous sommes sur des marchés extrêmement concurrentiels, avec des pays à main d'œuvre à un coût bien inférieur. Et tant que nous déciderons que nous resterons dans la partie de l'activité économique, c'est-à-dire pour l'essentiel de la production, qui est concurrentielle avec ces pays-là, si vous me permettez cette expression pas très jolie, nous reprolétariserons nos prolétaires. Mais comme ce travail, du coup, devient extrêmement plus dur qu'il était précédemment, eh bien, cette pression fait que les individus ont tendance à se retirer du travail. Et plus les individus ont tendance à se retirer du travail, que ce soit les cadres ou que ce soit d'autres, finalement, toutes les catégories, et plus on cherche à les coincer, comme le disait Vincent de Goljac, dans des batteries d'indicateurs qui, finalement, d'une part, n'ont plus aucune relation au travail effectif qui est effectué, mais en plus deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres. Et on a une espèce de management par la contrainte, par le discours, par les indicateurs, etc., qui est, je voudrais le dire à Thomas Philippon, largement inspiré de ce qui se fait pour partir aux États-Unis. Par exemple, regardez l'importance des process aux États-Unis. L'important, c'est d'avoir des process, peu importe de savoir si on les respecte ou pas, mais qui surtout, et c'est ça qu'il faut faire remarquer par rapport au thème du livre, est l'inverse de la société de confiance. C'est-à-dire qu'on peut supposer, et d'ailleurs les expériences qu'on a le montrent, et d'ailleurs c'est ce que dit Thomas Philippon quand il parle par exemple de l'expérience de Christian Blanc à la RATP que vous citez, hein, et de la décentralisation, on obtiendrait sans doute beaucoup plus des gens et beaucoup mieux des gens par la confiance que par ces espèces de mécanismes, de process, d'indicateurs, de KPIs, comme on dit maintenant dans les entreprises, de Key Performance Indicators, c'est comme ça le vocabulaire de l'entreprise, qui confine, moi j'ai utilisé l'expression dans la fatigue des élites, qui aujourd'hui confine au délire managérial, et on n'en contrôle pas mieux les gens par ce délire managérial.
Thomas Philippon ?
Oui, je pense que, moi ce que je trouve fascinant, c'est que Comme vous l'avez dit en introduction du bouquin, moi j'ai une approche d'économiste dont j'essaie de regarder des statistiques. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le lien entre les relations du travail, la confiance et la performance économique, c'est-à-dire le nombre de chômeurs, le taux d'emploi, la productivité d'entreprise. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de faire le lien justement entre ce que je vois dans les données,
ce qu'eux voient sur le terrain.
Exactement, et tout ce qu'ils perçoivent beaucoup mieux que moi d'ailleurs sur le terrain. Et par exemple, l'idée qu'il y a une fatigue des gens. Moi, ce que je montre, c'est qu'elle se retrouve directement dans le désir de partir à la retraite plus tôt. On se plaint en France, par exemple, c'est connu. D'où vient le manque d'emploi en France ? Il vient essentiellement du fait qu'à partir de 50 ans, on a le taux d'emploi le plus faible des pays développés. Donc c'est là qu'on manque d'emploi. Et vous regardez ensuite dans les données micro, vous essayez de comprendre pourquoi les gens partent à la retraite plus tôt en France, et qu'est-ce que vous trouvez ? Indicateur numéro 1 du désir de partir à la retraite tôt, le fait de ne pas être satisfait de son travail, de ne pas avoir été satisfait de sa carrière professionnelle, de ne pas être satisfait de là où on a fini dans la boîte. Et c'est ça qui pousse les gens à partir plus tôt. Ça, si vous prenez dans les données, on voit que si vous augmentez la satisfaction au travail de, en gros, 10% dans la manière dont je le mesure, c'est-à-dire un truc assez petit, vous pouvez prolonger le désir de rester, c'est-à-dire de reculer le désir de repartir à la retraite, de 2 ans. C'est énorme. Donc là, il y a un vrai gain de juste si on se focalise sur ce problème de l'emploi des seniors, qui est un problème crucial. Donc c'est absolument fascinant de voir toutes ces mesures qualitatives et très intéressantes que les sociologues ont mis en place, de les retrouver dans les données macro quand on compare les différents pays. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors, Vincent de Gaulle-Jacques. Je voudrais revenir sur un point, parce que quand on a, avec Nicole Aubert, fait le coup de l'excellence, on s'est dit cette exigence du toujours plus, ce système managérial qu'on appelait le système managiné, hein, puisque c'était l'imaginaire des individus qui faisaient l'objet du management, il était sous-tendu par une logique capitaliste et le passage de capitaliste de production à capitalisme financier et la shareholder value, donc l'exigence des actionnaires de plus en plus forte autour de 10%, 12%, 15%, jusqu'à 20% de rentabilité du capital, etc. Et on s'est dit, c'est ça, en fait, le moteur, le déterminant, etc. Et donc la pression du travail, elle est liée à la pression des actionnaires et à la transformation du capitalisme avec la globalisation, etc. Et puis, je me suis rendu compte que cette pression-là, donc que je pensais être la caractéristique de ce type d'entreprise, de technologie de pointe sur des marchés très concurrentiels, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit émerger exactement les mêmes phénomènes dans le travail social, à l'université, chez les chercheurs, dans la culture, c'est-à-dire dans des secteurs qui sont des secteurs non marchands et des secteurs non soumis à de la concurrence immédiate, rapide, etc. Alors on se dit, mais où il est le principe explicatif alors ? Pourquoi on assiste aujourd'hui, par exemple, dans le travail social, vous avez des travailleurs sociaux qui ont maintenant des feuilles de temps où ils ont 70 items et ils doivent remplir chaque jour le nombre de minutes qui passent par item. Bon. Et qu'on leur dit, attention, si vous ne faites pas ça, les fournisseurs de ressources, ceux qui nous financent, etc., ils ont besoin d'évaluation, ils ont une exigence de demander aux travailleurs sociaux ce qu'ils font parce que les travailleurs sociaux sont payés par la collectivité, etc. Et donc, il faut répondre à ces exigences, sinon on n'aura plus de fonds. C'est-à-dire, ils sont exactement dans la même situation que n'importe quel travailleur dans une entreprise qui doit justifier de sa rentabilité, alors que là, ça n'a strictement aucun sens. Alors, je me demande d'où ça vient, ça. Enfin, je suis en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'où vient cette espèce de gestionnarisation de l'ensemble de la société qui fait que ces modèles de management et de gestion qu'on a vus émerger dans les multinationales, en particulier anglo-saxonnes, qui avaient une vision, qui avaient une philosophie d'entreprise dans laquelle il y avait beaucoup d'attention justement à respecter l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure entre le client, les actionnaires, le personnel et même... Hein, rendre service au bien de la collectivité, etc. On voit qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce système est en train d'éclater, hein, en termes de valeurs, parce qu'il y a un tel écart entre les pratiques concrètes au niveau du travail et les valeurs qui y sont associées ou les discours qui sont associés qu'effectivement, les gens n'y croient plus. Et si les gens c'est pas qu'ils désinvestissent du travail, et vous l'avez dit très justement, c'est une bêtise, je crois, de penser que les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus travailler dans une situation où ils sont mis en permanence dans un double bind, c'est-à-dire où le sens pour lequel ils souhaitent travailler est complètement en contradiction avec le sens qui est prescrit par les organisations du travail dans lequel ils sont. Et qu'il y a là quelque chose qui me paraît être un problème tout à fait majeur et qui est un des éléments explicatifs de la crise du travail.
François Dupuis ?
Oui, je voulais juste faire une petite incidente par rapport à ce qui vient d'être dit à un niveau factuel. Tel que moi je peux l'observer, la fameuse, pour prendre l'expression, la gestionnarisation de la société, c'est-à-dire le fait effectivement que la mesure s'implante partout. Vous avez fait référence au travail social, mais on pourrait prendre d'autres indicateurs, même dans le sport. Ça finit par être la même chose, mais en tous les cas, en ce qui concerne l'activité de production, c'est parce que les instruments de gestion sont perçus comme des instruments de contrôle des coûts. C'est-à-dire qu'il y a un a priori qui est posé, c'est que si l'on ne contrôle pas de façon aiguë, pointue permanente de ce que font les acteurs, on aura toujours une dérive des coûts. Et pour le moment, et comme, et c'est là où on pourrait faire observer un mécanisme qui se produit de façon concomitante, il a été fait référence à la création de valeur pour l'actionnaire. Mais de toute façon, là où effectivement dans le secteur privé, on ponctionne une partie de l'argent pour en rémunérer l'actionnaire, ok, très bien, dans le secteur, tout ce qui relève du secteur public, il y a une raréfaction de la ressource. Et plus il y a une raréfaction de la ressource, et plus, effectivement, on a ces logiques gestionnaires qui sont à l'œuvre. D'ailleurs, je remarque que Thomas Philippon, dans son livre, dit, effectivement, que ça n'est pas dans les sociétés dans lesquelles le capitalisme financier est le plus exacerbé, on pourrait prendre l'exemple des États-Unis, que les relations sociales sont les plus détériorées et que les salariés y sont les moins bien traités, si j'ai bien lu le livre.
Oui, d'ailleurs, et ça rejoint aussi le livre dans cette même collection de Philippe Askenazy sur les conditions de travail, par exemple, où il montrait bien que le capitalisme, les entreprises américaines avaient compris il y a déjà quelques années qu'en améliorant les conditions de travail, en faisant en sorte de faire baisser les maladies professionnelles ou les accidents du travail, elles gagnerait beaucoup d'un strict point de vue économique, sans parler de morale ou d'humanisme, ce que visiblement les patrons français ont un peu plus de mal à comprendre, qui s'intéressent assez peu aux conditions de travail.
Oui, c'est vrai. Donc les entreprises américaines, de ce point de vue-là, du point de vue des maladies du travail et de la pénibilité du travail, elles ont fait des efforts, pas parce qu'elles sont plus altruistes que les entreprises françaises, mais pour deux raisons. Parce qu'elles y ont été contraintes, parce que le marché de l'emploi était tellement tendu que pour recruter, elles devaient offrir des conditions de travail décentes. Donc ce qui prouve que si on arrivait à faire baisser le chômage, on aurait des effets secondaires bénéfiques absolument immenses. Et l'autre façon dont elles ont été contraintes, c'est qu'elles ont été contraintes par la société civile. Il y a eu des pressions de la part de lobbies, de groupes de consommateurs, de syndicats qui existent encore aux États-Unis pour les contraindre à le faire. Donc ça, c'est absolument, absolument vrai. Et d'ailleurs, pour revenir à cette histoire de capitalisme financier, donc encore une fois, c'est peut-être au risque de dire quelque chose d'un peu sacrilège en France, je ne pense pas que la financiarisation de l'économie se fasse nécessairement au détriment du travail. Donc j'ai essayé de voir dans les données ce qu'on pouvait en dire, objectivement. On ne peut pas dire que ce sont les pays, les États-Unis en particulier, mais si on prend globalement tous les pays développés, on ne peut pas dire que c'est les pays où les marchés financiers sont les plus développés, selon quelques mesures que l'on emploie, où les relations sont les plus mauvaises, où il y a le plus de chômage, où il y a le moins d'emplois, où les salaires sont les plus bas. Tout ça, c'est pas vrai. Donc, encore une fois, la financiarisation de l'économie, c'est un phénomène important, mais l'idée selon laquelle c'est ça qui est à la source de la crise du travail, je pense pas que ça tient la route.
En tout cas, c'est pas le seul facteur explicatif. Si je peux dire juste un mot sur ce qui m'a beaucoup touché dernièrement, vous avez constaté ces suicides chez Renault. Et vous avez constaté la réaction du management et du patron même de Renault, complètement démuni par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, alors que c'est le quatrième, et qu'il y a eu d'autres indicateurs en termes de stress, de montée de la pression, etc. C'est-à-dire que le management aujourd'hui est totalement aveugle par rapport à ce qui devrait être sa préoccupation principale, c'est effectivement de comprendre et d'écouter ce qui se passe. Et ils n'ont pas les outils pour comprendre et pour écouter, et comme ils sont dans le paradigme utilitariste, que ici il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc s'il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Et donc on fait comme si le problème de la pression du travail, du harcèlement, de l'épuisement professionnel, du stress, des suicides et de la dépression n'était justement qu'un problème médical et psychologique, alors qu'il est évidemment corrélé mécaniquement, directement avec les conditions de travail. Il y a là quelque chose qui, quand même, devrait susciter une indignation, une réflexion collective, etc. Et je suis très, très frappé que ce problème, qui me paraît être un phénomène social massif en France, soit si peu présent dans la campagne électorale actuelle.
Et encore, on parle... Il n'y a pas que le management qui ne les a pas vu venir, ces problèmes. Les syndicats non plus. Donc, il ne s'agit pas juste de dire que... juste
pour... Mais encore une fois, il n'y a pas non plus que les aspects psychologiques du stress, etc. Il y a aussi, et ça je me rappelle bien que Philippe Askenazy insistait là-dessus dans son livre, les aspects les plus durs de la pénibilité physique,
les conditions de travail, l'éclairage.
Qui ont tendance à être un peu moins prises en compte ces dernières années, parce que précisément on s'est intéressé à des choses plus nouvelles, qui qui ressortaient de la psychologie, par exemple, des effets psychologiques, en délaissant un petit peu les aspects plus physiques des effets du travail. Il nous reste très peu de temps, Thomas Philippon, 5 minutes. Je voulais quand même qu'on dise un mot des solutions que vous envisagez dans le dernier chapitre, avec ce titre un peu révolutionnaire, Que faire ? Vous essayez de montrer que des choses extraordinairement disparates, hétéroclites, peuvent au fond s'articuler pour produire une solution qui passerait vers une forme de confiance retrouvée dans les relations sociales et qui viendrait arranger un petit peu cette tension qu'on connaît depuis toujours au fond en France. Alors ces choses disparates concernent aussi bien la question de la transmission des PME que le financement de la croissance, que la rénovation. Bon, l'éducation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais aussi vous insistez, et là ce serait presque une forme de transition vers l'émission qu'on fera d'ici 2 semaines autour de ce livre sur Alain Minc, les médias et le gouvernement d'entreprise, parce que ça, vous pariez beaucoup sur, en citant des travaux américains, sur le fait que les médias pourraient être des garde-fous puissants contre les abus des dirigeants. Ça voudrait dire effectivement que la presse française soit suffisamment forte, notamment à l'égard des annonceurs, pour pouvoir assurer au quotidien un traitement de la vie des entreprises, indépendant, qui ne se laisse pas manipuler face aux grands feuilletons des entreprises, aux raids des OPE, des OPA, et on voit bien que la presse a du mal à ne pas se faire balader, se faire manipuler, à garder son indépendance pour des tas de raisons. D'abord de compétences peut-être journalistiques et puis aussi d'indépendance à l'égard des annonceurs, encore une fois, Thomas Philippon.
Oui, je pense que vous avez cité les deux mots-clés absolument, c'est-à-dire compétences et indépendance, il faut les deux. Et donc effectivement, on souffre sans doute traditionnellement d'un manque de peut-être de compétences vis-à-vis des sujets économiques, pas que la presse d'ailleurs, mais la presse en particulier, qui fait que on a du mal à comprendre en temps réel ce qui se passe dans les entreprises. Et ensuite, on a certainement un manque d'indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de groupes. De ce point de vue-là, il y a certainement des choses à faire en termes de politique publique. Si vous voulez, moi, par exemple, j'ai suivi en temps réel aux États-Unis, j'ai travaillé sur le sujet, sur Enron et les scandales financiers qui ont Enron et quelques autres.
WorldCom.
Et donc, j'ai vu en temps réel la recherche, enfin le travail dans les journaux. Et c'est très différent de la France, c'est-à-dire que...
Oui, on n'a pas traité l'affaire Vinci tout à fait de la même façon en France, par exemple, pour prendre un dossier récent.
Non, c'est-à-dire que les journalistes ont une tradition d'investigation très rapide, essaient de suivre en temps réel ce qui se passe dans les entreprises. Et la façon dont Enron a été traité, je veux dire, il faut quand même voir le résultat. Il y a un comptable qui s'est suicidé, l'ancien PDG qui a fait une crise cardiaque sachant qu'il allait être en prison à vie, et le troisième qui était un autre PDG qui a pris 25 ans de prison ferme. Ça fait réfléchir les patrons par rapport à ce genre d'abus. Évidemment, c'est des abus exceptionnels.
Ça produit aussi des législations et la mise en place de barrières quant aux conflits d'intérêts qui sont autrement plus strictes que celles qu'on peut connaître en France.
Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, encore une fois, en pratique, ce qu'on voit, c'est que l'indépendance de la presse et la pression des journaux, c'est une manière très efficace de régler un certain nombre de problèmes dans certaines entreprises, juste parce que les entreprises tiennent à leur réputation, elles ont bien raison d'ailleurs, ce qui fait que la pression...
Ça marche bien dans des pays libéraux, enfin au sens américain du terme, aussi on voit bien qu'on a un peu de mal avec ça. François Dupuy veut absolument ajouter un petit mot. François Dupuy.
Oui, juste un petit mot de conclusion de moi, ce qui me concerne. Vous voyez, le sous-titre de ce livre, c'est la crise française du travail. Mais ce que je voudrais vous suggérer une solution qui n'est pas évoquée par Thomas Philippon, c'est que, vous voyez, dans un pays comme le pays de la France, qui a un taux de chômage aussi élevé de façon récurrente, quelles que soient les légères variations, eh bien, l'emploi cannibalise le travail. C'est-à-dire, on a un problème d'emploi qui est tellement fort que le problème du travail n'arrive pas à remonter à la surface. Et par conséquent, c'est pas simplement le management qui s'occupe pas du travail, c'est les politiques et c'est même les organisations syndicales qui n'y sont pas sensibilisées parce qu'elles sont toutes focalisées sur l'emploi. Et une des solutions, c'est quand même d'arriver, et ce livre y contribue, à faire venir sur le devant de la scène le problème du travail et pas seulement celui de l'emploi.
Merci François Dupuis, merci Vincent de Goljac et Thomas Philippon. Je rappelle que nous parlions du livre de Thomas Philippon, Le capitalisme d'héritier, la crise française du travail à la République des idées. Au seuil, et je cite le dernier livre de Vincent de Goljac, La société malade de la gestion. Au seuil également, celui de François Dupuis, même maison d'édition, La fatigue des élites. On trouve toutes les références bibliographiques sur le site de La suite dans les idées sur France Culture, sur le site de France Culture. Et puis vous pouvez également télécharger cette émission. La semaine prochaine, on essaiera de réfléchir sur l'usage des sondages d'opinion et notamment des sondages d'intention de vote en période de campagne électorale, puisqu'il semble que des usages un petit peu nouveaux soient apparus lors de cette campagne. Ce sera avec un journaliste qui vient de consacrer une enquête au sujet, Nicolas Jallot, et en compagnie de deux professeurs de sciences politiques, Loïc Blondiot et Alain Garrigou. Voilà, merci à Catherine Parent, merci à Cyril Métro à la technique, Brigitte Mazir pour la réalisation. À la semaine prochaine.